franceinter.fr. La revue de presse est avec vous, Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour, je commence ce matin par une photo en une de Libération. C'est Patrick Balkany, il y a quelques années de moins. Il est tout sourire avec un gros cigare coincé dans la bouche dans sa mairie de Levallois-Perret. Donne Patrick de Levallois, titre Libération, qui revient sur les affaires du maire de la commune des Hauts-de-Seine dont le parquet financier a demandé le renvoi en correctionnel pour corruption, blanchiment et prise illégale d'intérêts. Plongé dans un système ahurissant, prévient Libération, qui a pu consulter le réquisitoire du parquet, accablant tout simplement entre 2007 et 2014, au moins 13 millions d'euros dissimulés et un empire immobilier constitué grâce à des montages financiers parfaitement huilés. Patrick Balkany, un véritable parrain selon Libération, Corléone des banlieues, écrit même Laurent Geoffrin, qui se demande quand les électeurs de Levallois-Perret cesseront de le réélire comme maire. Levallois-Perret est la commune la plus endettée de France, ce seront les habitants qui devront passer à la caisse, rappelle-t-il. Avant de conclure, ce n'est pas Levallois-Perret, mais Levallois-Perret. Et puis d'une affaire à l'autre, d'un barreau à l'autre, il n'y a qu'un pas qui va des Hauts-de-Seine à l'Essonne. À lire dans le Parisien ce matin, les étranges largesses de Serge Dassault, où l'on apprend que les juges qui enquêtent sur des soupçons d'achat de vote par l'ancien sénateur maire de Corbeil-Essonne, les juges ont découvert quelques 10 millions d'euros de dons versés sur des comptes étrangers, essentiellement à des habitants. Parmi les bénéficiaires, Alexandre Djoury, déjà soupçonné d'avoir joué un rôle dans un autre versement, 500 000 euros sur un compte de Claude Guéant, quand il était secrétaire général de l'Élysée sous Sarkozy.
Aurélien, jamais 203, corruption aussi chez Airbus. C'est à la une de Mediapart.
Le gigantesque scandale qui menace Airbus, titre le site qui a eu accès à l'enquête franco-britannique sur les pratiques de l'avionneur. Constat hallucinant, des centaines de millions d'euros de commissions occultes versées à des intermédiaires. Un véritable système, là encore, qui menace aujourd'hui les plus hauts dirigeants d'Airbus. Pour Mediapart, c'est le plus gros scandale depuis l'affaire Elf. Une affaire qui pourrait porter un coup de terrible à ce fleuron stratégique européen. Le site explique que les Américains sont en embuscade avec la possibilité de lancer une procédure anticorruption qui serait ravageuse. On se souvient que c'était un contexte quasi identique qui avait conduit au démantèlement d'Alstom, vendu en partie à l'américain General Electric.
Sans transition, Aurélien, des affaires à la transparence avec un autre sujet dans la presse ce matin, la loi sur la moralisation de la vie publique.
Frais des parlementaires, les députés dissipent le flou, c'est à retrouver dans les Échos. Le journal salue le vote hier de la suppression des emplois familiaux et de l'indemnité représentative de frais de mandat. Il est plus sceptique en revanche sur l'encadrement des lobbies. Interview à retrouver d'un spécialiste du Conseil qui regrette qu'au nom de la lutte contre l'influence des groupes de pression, on jette surtout la suspicion sur le métier de conseil. À lire aussi dans La Croix, les vrais débats de la moralisation. Le journal passe en revue les mesures qui pourraient être adoptées aujourd'hui, notamment la création d'une banque de la démocratie et la création d'un médiateur du crédit. Et puis toujours à propos de cette loi, on le dit depuis le début de la semaine, les débats ont été houleux à l'Assemblée, voire chaotiques, avec deux vice-présidentes dépassées notamment, à lire dans Le Parisien. Mais que fait François de Rugy? Le président de l'Assemblée nationale est sous le feu des critiques. Est-il tétanisé ou incapable de gérer les débats? S'interroge un député LR, alors que Le Parisien souligne un manque de charisme et une faiblesse de caractère du président de l'Assemblée nationale.
La majorité En Marche à l'Assemblée en prend pour son grade, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud aussi.
Après avoir révélé hier l'opération boursière à 1 million d'euros dont elle aurait bénéficié quand elle était DRH chez Danone, l'Humanité se félicite de la pression qui monte sur une ministre déjà mise en cause dans l'affaire du voyage à Las Vegas d'Emmanuel Macron. Une ministre du Travail fragilisée reconnaît aussi l'opinion en une. Pour le journal très libéral, cette révélation donne à voir une Muriel Pénicaud dirigeante de grande entreprise avec des revenus confortables, loin de la simple DRH passée par le cabinet de Martine Aubry comme on l'a présentée. Et l'opinion s'inquiète de cette nouvelle affaire, du pain béni pour les opposants de gauche qui bataillent contre la réforme du Code du Travail. Dans le Figaro, l'intéressée se défend, elle dénonce des amalgames, entretien à lire, avec aussi le bilan de la concertation avec les syndicats sur la réforme du travail. Notre modèle social n'est plus adapté à notre temps, tranche Nicole Pénicaud.
Un autre ministre fait la une aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire, avec l'annonce hier de la nationalisation des chantiers navals de STX.
Oui, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé, sans jamais prononcer le mot d'ailleurs, mais c'est Emmanuel Macron qui est derrière l'initiative et donc devant dans vos journaux. Macron nationalise les chantiers navals en une du Parisien avec photo du président sur les docks, sourire assuré devant des ouvriers. Arnaud Montebourg en rêvait, Bruno Le Maire l'a fait, écrit le journal qui y consacre une double page. STX, l'État prend la main en une du Télégramme de Brest. STX. L'État reprend la main, ça c'est pour Ouest France. La Croix ose même un chantier naval, l'État prend la barre. De manière générale, la presse salue l'initiative, mais souligne qu'elle n'est que provisoire, répit très temporaire, titre l'Humanité, pour qui cette nationalisation n'augure en rien le développement d'une vraie stratégie industrielle.
Comme on peut s'y attendre, le ton est différent dans la presse un peu plus libérale.
Pincez-moi, une nationalisation, c'est l'édito de Rémy Godot en une de l'Opinion. Bercy démontre une fois de plus son inventivité débridée, ironise le journaliste en soulignant le reniement du candidat Macron qui promettait de libérer les capacités de production. Dans un pays où l'étatisme le dispute au jacobinisme, rien d'étonnant à ce que, de la France insoumise au FN, cette solution nationale soit applaudie, poursuit l'éditorialiste, avant de se demander si cet embrouillamini STX marque vraiment la rupture attendue. Et puis en une des Échos, Macron nationalise et fâche l'Italie avec interview du ministre de l'économie italien Pier Carlo Padoan, furieux. Ce manque de confiance envers les partenaires italiens est inacceptable, confie-t-il. Dans son édito intitulé « De Jupiter à Colbert », Jean-Marc Vittori regrette un camouflet qui touche toute l'Italie, un pays qui a pourtant toujours réservé un bon accueil aux investisseurs français, allusion aux géants français du luxe qui ont mis la main sur nombre de marques italiennes.
Un autre titre, Paris braque Rome en nationalisant STX, ça c'est le Figaro qui fait cela dit aussi sa une sur une autre annonce de l'exécutif.
Oui, les migrants, Macron prêt à agir sur le sol libyen. Le titre qui barre la une du journal, le Figaro estime que le chef de l'État fait un pari audacieux sur un sujet inflammable, la crise migratoire. Dans son édito intitulé « À la racine », Paul-Henri de Limbert est convaincu que l'Europe est promise à une déferlante migratoire venue d'Afrique si elle ne fait rien. La création de centres d'examen des demandes d'asile, de hotspots sur le sol libyen, serait donc pour lui un tournant stratégique car ils permettront de traiter le mal à la racine, c'est-à-dire sur le continent africain. La France et l'Europe ont le droit de dire non à l'immigration économique, c'est un signal encourageant pour rassurer des opinions effrayées par les ravages d'une immigration hors contrôle, conclut l'éditorialiste. Et puis, des hotspots dans le désert libyen, le mirage Macron, ça c'est le titre de Libération. Position bien différente pour le journal qui estime que si l'urgence humanitaire fait consensus, les réponses à apporter le font beaucoup moins. À qui s'adresseront ces centres de tri, demande Libé, qui souligne que les migrants arrivant de Libye sont majoritairement des migrants économiques. Libération qui interroge aussi la capacité de la Libye à accueillir des agents français de l'OFPRA et à offrir aux migrants un examen serein et sécurisé de leurs demandes d'asile. Et puis, je termine cette revue de presse et cette semaine avec La Croix, un sujet un peu plus léger quand même. Pour le week-end, Walker Evans, artiste documentaire, un long papier, très long papier, à lire dans La Croix sur l'exposition qui se tient jusqu'à la mi-août au Centre Pompidou à Paris, sur ce photographe américain considéré comme le père du style documentaire, premier cliché réalisé à Paris quand il était étudiant à la Sorbonne pendant un an dans sa jeunesse.
Très belle exposition, merci beaucoup Aurélien Colli, c'était la revue de presse.